Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi. Nous sommes le 8 octobre. Le point hebdomadaire du ministre de la Santé, Olivier Véran, particulièrement attendu à Lyon. Lyon qui pourrait être placé en zone rouge écarlate. Le nombre de cas graves Covid-19 continue en effet de progresser dans le département du Rhône. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, était lui hier au centre de dépistage de Gerland. Il a estimé que des mesures supplémentaires ne se justifiaient pas face à la situation actuelle. Au moment du confinement, l'armée avait été largement mobilisée avec l'opération Résilience. Quelle serait son action en cas d'amplification de la deuxième vague? Nous avons rencontré le général Philippe Loyacono, gouverneur militaire de Lyon. Nous l'écouterons dans cette édition. Les pompiers ont manifesté hier devant la préfecture. Ils étaient environ 250. Ils ont déposé leur casque pour dénoncer les violences urbaines. Hommage également dans ce quart d'heure lyonnais à Jean-Marc Avocat. Le comédien âgé de 72 ans est décédé des suites d'un infarctus. C'est Gaël Bossier qui lui rendra hommage tout à l'heure.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, le campus stéphanois d'OM Lyon fermé pour 15 jours à la suite de plusieurs cas de Covid-19 parmi les étudiants. Ce cluster est la conséquence d'une fête d'anniversaire organisée jeudi dernier par un étudiant vivant en colocation avec un copain. Au départ, ils sont une dizaine dans l'appartement et tout se passe bien, dans le respect des règles. Mais suite à des échanges sur les réseaux sociaux, des jeunes affluent et ils se retrouvent une centaine dans l'immeuble, provoquant la colère des voisins qui appellent le 17. Les deux jeunes colocataires ont été entendus au commissariat. Ils n'auraient pas eu l'intention de mal faire, mais se sont retrouvés piégés, débordés par la situation. La plupart des intrus étaient venus en effet d'une salle des fêtes voisine, dont l'accès leur avait été interdit. Le nombre de cas graves de Covid-19 continue de progresser dans le Rhône. 5 décès survenus ces 24 dernières heures dans les hôpitaux du département. 45 nouveaux patients admis à l'hôpital au cours des 24 dernières heures, dont 9 en réanimation. 399 patients sont hospitalisés pour Covid-19 dans un établissement de santé du Rhône. 79 patients se trouvent dans un service de réanimation. Le taux d'incidence et le taux de positivité augmentent légèrement. Le taux de patients Covid-19 en réanimation est un autre indicateur essentiel. Il flirte autour des 30%, la barre fatidique, pour un passage en rouge écarlate. Le point hebdomadaire du ministre de la Santé, Olivier Véran, est particulièrement attendu ce soir. En visite au centre de dépistage de Gerland, le maire de Lyon a estimé que des mesures supplémentaires ne se justifiaient pas face à la situation locale. Grégory Doucet a rappelé sa doctrine, responsabiliser plutôt qu'envoyer des signaux négatifs. Le maire de Lyon a rappelé son souhait de voir les mesures sur les jauges assouplies. 1000 personnes dans un stade comme Décines, je ne vois pas la logique, a-t-il déclaré. Sur la fermeture des bars à 22h, Grégory Doucet estime qu'un patron de bar peut contrôler, ce qui n'est pas possible dans un espace privé. Il a enfin rappelé son pari d'avoir une fête des lumières et une vogue des marrons d'ici la fin de l'année.
Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
On se souvient que dès le mois de mars, au moment du confinement, l'armée avait été largement mobilisée avec l'opération Résilience. Les troupes avaient transporté des dizaines de millions de masques, des milliers de litres de gel hydroalcoolique, récupéré du matériel pour le mettre en sécurité ou le gardienner. L'armée a aussi délivré des masques dans quasiment toutes les écoles du Rhône. Elle est intervenue également dans les EHPAD. Le gouverneur militaire de Lyon, le général Loyacono, a fait le point à notre micro sur le premier engagement de l'armée et sur sa capacité à agir en cas d'amplification de la deuxième vague. Le général Philippe Loyacono.
Cette première partie, pour ce qui concerne les armées, s'est passée selon deux axes. Le premier, bien sûr, c'était de faire une offre de service aux différents acteurs étatiques, essentiellement dans le monde de la logistique, dans le monde de la protection, dans le monde de la santé. Et nous avons eu des unités d'Auvergne-Rhône-Alpes qui ont été engagées dans l'élément militaire de réanimation. Des gens, donc c'était le Hermed et puis les écoles de santé militaire de Lyon-Bron. Des régiments qui sont du côté de Valence, notamment une formation d'hélicoptères qui a été engagée dans le mouvement et dans le déplacement, le transport de blessés à partir de l'est de la France, mais ce sont des hélicoptères de chez nous. Nous avons aussi, sur le plan de la logistique, transporté de la classe d'une trentaine de millions de masques, et donc sur Issoire, Clermont-Ferrand, Annecy, Lyon, bien sûr, du gel hydroalcoolique également. Enfin, on a fait aussi du gardiennage, c'est-à-dire que plutôt que de mettre des gens militaires à l'extérieur sur des dépôts, en accord avec le préfet de zone de défense et de sécurité, sécurité sud-est. Ici ou là, ça n'a pas été systématique, mais lorsqu'il le fallait, lorsqu'on le pouvait, on a récupéré ces stocks et on les a mis dans nos casernes, puisque nos casernes sont gardées. Ça, c'est le premier axe. Et le second, c'est pendant cette crise Covid, il fallait malgré tout se préparer pour aller relever nos camarades qui sont engagés au Mali, par exemple, mais aussi en Méditerranée orientale pour les marins, etc. Et donc, vous avez tout le processus de formation et d'entraînement qui a continué de courir. Et pour cela, bien sûr, il a fallu aussi nous adapter, je dirais, aux contraintes liées à la résolution du Covid, notamment les gestes barrières, et accepter que là où on s'entraînait à 150, on s'entraîne plus qu'à 30, et ces 30, on les split ou on les divise en 3 fois 10. Mais de toute façon, pouvoir garantir d'abord aux cadres et aux militaires qu'on allait envoyer sur le territoire d'opération, mais également aux familles et puis surtout aux chefs militaires, que les gens qui seraient engagés de façon nominale. Il est clair que l'on imagine la façon dont on pourrait être employé demain, soit à égale proportion du printemps dernier, soit un peu plus, soit un peu moins. De toute façon, c'est la situation qui commandera. C'est la situation qui commandera. S'agissant de la règle des 4I à laquelle vous faites référence, c'est-à-dire normalement des moyens militaires ne sont engagés que si les moyens ou les capacités civiles, comme l'on dit, sont inexistantes, inadaptées, insuffisantes ou indisponibles, eh bien, pour l'instant, je sais qu'aujourd'hui, le mode d'engagement, c'est on respecte ces 4I, mais on pourrait très bien me dire, ben, ces 4I, on peut les amender, on les respecte un peu moins, et à partir de là, la réponse, je dirais, militaire, ou la réponse du ministère des Armées en Auvergne-Rhône-Alpes sera plus ou moins importante.
Est-ce que l'armée fonctionne différemment depuis la crise du Covid ?
Oui, regardez, nous sommes ici dans les salons, tout le monde porte le masque. Donc oui, nous fonctionnons différemment. Oui, je dirais, la préparation opérationnelle se pense au prisme du Covid. Mais, un, le militaire a l'habitude d'être dans le chaos, le militaire a l'habitude d'être engagé en opération, voire d'être déployé sur des missions longue durée dans des pays où vous avez le palu, etc. Et donc, nous avons ces gestes ancrés en nous, c'est dans notre ADN. Donc, ben, le Covid pose. Est-ce que c'est une contrainte ? Je ne sais pas. Mais dernièrement, je me suis exprimé devant tout mon état-major et au quartier général Frère en disant, écoutez, on est en ambiance Covid, c'est une donnée d'entrée, donc il faut faire avec. Et désormais, il ne s'agit plus de se dire quelle activité je dois annuler, mais comment j'adapte l'activité au respect des gestes barrières, notamment.
Philippe Leacono, le gouverneur militaire de Lyon. La cérémonie des obsèques de Victorine d'Artois s'est déroulée hier après-midi en l'église Saint-Jean-Baptiste à Bourgoin. Environ 1000 personnes étaient présentes pour rendre un dernier hommage à cette étudiante dont le corps a été retrouvé le 5 octobre dernier sur le parvis de l'église. La foule a applaudi lors du passage du cercueil. L'enquête pour meurtre destinée à élucider les circonstances de la mort de Victorine est toujours en cours, mobilisant d'importants moyens. Violences urbaines récurrentes, agressions à répétition, les pompiers du Rhône ont décidé d'afficher leurs craintes et leur colère. Environ 250 pompiers en colère ont déposé leur casque hier après-midi devant la préfecture. Dans le Rhône, l'an dernier, il y a eu 160 actes et 111 dépôts de plaintes pour agression de sapeurs-pompiers. C'est ce qu'ont rappelé les organisateurs de la manifestation. La maire socialiste de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy, tentera de ravir le poste de premier secrétaire du parti à Olivier Faure lors du congrès qui se tiendra les 12 et 13 décembre à Villeurbanne. Hélène Geoffroy entend s'opposer à la stratégie de rassemblement de la gauche à tout prix, une ligne conduite par Olivier Faure, candidat à sa propre succession. Hélène Geoffroy est alors qu'il est la seule à se présenter face à Olivier Faure.
Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde.
Il s'appelait Jean-Marc Aboka et c'était mon traître, c'était mon ami. Et c'était un acteur. Les mots sont d'Emmanuel Mérieux, annonçant hier le décès de Jean-Marc Aboka des suites d'un infarctus. Une carrière d'un demi-siècle pour ce comédien, qui était aussi un habitué de nos plateaux radio. Gaël Bossier.
En 2011, Jean-Marc Aboka interprétait Don Juan de Miloche. Parmi toutes les variations sur le célèbre séducteur, le comédien était allé puiser son inspiration dans un texte sublime et crépusculaire. Je l'avais rencontré pour évoquer ce rôle, mais aussi une performance autour des trois tragédies de Racine, seul en scène, au Célestin.
Jean-Marc Aboka, bonsoir. Je viens d'assister donc à votre représentation de Don Juan de Miloche à l'Espace 44. C'est un personnage décadent, un personnage qui est sur la fin de vie, que présente ici cet auteur tout à fait incroyable, qui est Miloche. Alors, c'est vrai que c'est pas du tout le Don Juan de Mozart, loin de là. Moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ce choix de texte.
Alors, ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que Miloche, l'auteur, était lituanien, et donc le texte est écrit en français. Miloche a été dans une très courte période, dans la première moitié du XXe. Donc, et Miloche a été ambassadeur de Lituanie en France.
On a l'impression que c'est un peu prémisse du surréalisme. En tout cas, dans le découpage de textes que vous proposez, on ressent en tout cas ce surréalisme à la fois dans la langue, puisqu'il joue sur les mots, il fait rimer les mots, mais avec une manière que les dadas, par exemple, auraient pu utiliser.
Oui, c'est sûr. Et je pense que, d'ailleurs, il a été ami, autant que je sache, avec certains des surréalistes. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ce texte-là, que j'ai tiré quand même vers la vieillesse, et il était jeune quand il l'a écrit, il y avait une question qui me passionnait, c'était, Don Juan, en principe, il meurt jeune. Il meurt foudroyé par Dieu. Un Don Juan qui ne mourrait pas jeune, qu'est-ce qui devient vieux? La question de Don Juan, vieux, comment il est? Et c'est ça qui m'a vachement intéressé, c'est de cette espèce de personnage complètement mythique, légendaire, Don Juan, mais quand il a 70 ans, comment il est? Alors, il y a Monterland qui a écrit aussi un très beau Don Juan âgé, qui est dans une pièce qui a un très très beau titre, qui s'appelle « La mort qui fait le trottoir ». Et Don Juan, là, a 66 ans, bon, l'âge du diable et tout. Mais à part Miloche et Monterland, je ne connais pas un seul Don Juan qui est... près de l'âge, quoi.
Alors là, c'est un Don Juan, en plus, qui vit dans une sorte de manoir, et je trouve que l'espace 44 s'y prête tout particulièrement. Il est accompagné sur scène de sa dernière maîtresse.
Qui est d'ailleurs, c'est le comble du dérisoire et de l'impuissance pour un Don Juan. C'est une poupée gonflable et qu'on a entourée de bandelettes, qu'on a momifiées, parce que c'est son dernier jouet à qui il parle, comme si c'était sa jeune dernière conquête.
Miloche a de très beaux mots pour parler notamment de l'âme.
Ah oui, mon âme se décolore ainsi qu'un papillon noyé dans de l'eau de vaisselle.
Il a une manière en tout cas de nous faire rentrer dans cet univers qui est bien à lui avec ses mots. Et vous l'incarnez avec une douleur physique, hein, parce que c'est... Il est paralytique. Hein.
Mais en plus, c'est un spectacle que j'ai voulu un peu tenter un truc qu'on ne fait jamais au théâtre parce qu'on en a peur, c'est la lenteur. Et ce corps de Don Juan ne peut pas aller vite. Il y a une douleur à vivre ces derniers jours ou ces dernières heures ou peut-être une dernière année, mais pas plus. Et alors, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est son dandysme. Il dit d'ailleurs que c'est une maladie, le dandysme de la fin du 19e ou du début du 20e, dandysme à la Proust un peu. Et moi, ça me fascine assez parce que c'est une philosophie de la vie même. C'est pas uniquement être à la mode, ce qui veut rien dire. C'est de désespoir. Pouvoir dépasser. On est dandy parce que si on ne l'était pas, on ferait ce qu'il dit, c'est-à-dire on se suicide. Mais le suicide est de mauvais goût. Donc, le comble du dandysme, c'est de vivre parce que le suicide, c'est vulgaire, quoi.
On va retrouver Jean-Marc Avocat aussi dans une performance théâtrale tout autre au Célestin très prochainement. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots?
Bah oui, parce que c'est le 2 décembre. Entre 15h et 24h, je vais rejouer ce que je n'ai jamais fait encore, les trois tragédies de Racine que j'ai jouées en solitaire, mais une par une, si je puis dire. Là, je vais les jouer les trois quasiment à la suite, avec une heure de battement entre chaque. Et je pense de plus en plus que mon choix de le jouer, de les jouer seul, et de ne jamais me reposer sur le spectaculaire, mais que sur la langue, donc la pensée, et c'est un choix qui est juste. C'est pour moi un des sommets de la langue française, dont, par ailleurs, je suis aussi amoureux. Là, je suis venu au théâtre par la littérature et non pas par l'image. Et je quitterai le théâtre par la littérature aussi.
Merci beaucoup, Jean-Marc.
De rien, c'est moi qui vous remercie beaucoup.
Jean-Marc Avocat nous a quittés le 4 octobre dernier, laissant derrière lui ses admirateurs définitivement orphelins. Il était pour beaucoup un modèle, une source d'étonnement et d'inspiration. Merci pour ton travail et son exigence et tous les moments uniques que tu nous as fait vivre.
Merci Gaëlle pour cet hommage à Jean-Marc Avocat. Privilégiez le vélo, la marche ou la trottinette, le conseil est valable partout, mais plus encore si vous devez circuler sur la partie sud de la Presqu'île. Aux heures de pointe, le secteur Confluence est complètement congestionné en raison de deux zones de travaux, le quai Perrache placé en circulation alternée, des travaux pour au moins un an avec des trottoirs qui sont prévus pour être agrandis, la création d'une double piste cyclable et la plantation d'arbres. La circulation sur le cours Charlemagne est également difficile en raison des travaux de prolongement de T2 à Montrocher. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, même antenne. Excellente journée, mais restez prudents.